Bonsoir. Vous savez comment on appelle Françoise entre nous? On l'appelle Durandal, parce qu'elle est tranchante et raide. Et alors vous avez entendu les informations, ça tombe, c'est gravelotte. Bon, mais là, il n'y a pas de minauderie. Je dis ça parce que une charmante auditrice, forcément charmante, nous envoie une lettre en disant, puisque vous en avez parlé, j'adore l'humour de Serge de Beckett, et comme je la comprends, qui n'est en aucun cas assimilé à un manque de sérieux. Merci madame d'avoir compris ça. Ah bah les gens sans humour qui lui écrivent des choses pareilles, parce que j'avais reçu une lettre désagréable, j'en ai une autre là d'ailleurs que je vais lire. Quant à Victoria, ces minauderies me font grincer des dents. C'est méchant, hein. C'est gentil pour moi, c'est méchant pour Victoria, mais je le lis quand même parce que, basse vengeance. Mais c'est surtout parce que la pauvre Victoria, elle est bronchiteuse aujourd'hui. Elle n'est pas parmi nous parce qu'elle est malade. Alors quand même, on va, d'abord on l'embrasse et puis on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis on était bien triste l'autre soir de voir la Belle et l'Empereur.
Oui, sans sa voix.
Sans sa voix, c'est incroyable. Enfin, comment a-t-on pu faire doubler Romy Schneider par quelqu'un d'autre que Victoria? C'est-à-dire que le succès de Romy Schneider en France, avant sa période cinéma moderne, c'était Victoria. C'était Gilberte Les Enfants qui était son interprète, sa doublure vocale, et qui a une voix. Alors c'est pour ça que l'auditrice dit une minauderie, parce qu'elle a une voix de petite fille, une voix absolument pleine de miel, d'autres sources cristallines et tout. Et alors ça a beaucoup joué dans le succès de Romy Schneider. Après, Romy Schneider c'est devenue une actrice chez Bran. Mais avant, c'était une jolie petite comédienne alémentée avec beaucoup de talent. Ouais, bon, je m'égare. Donc, une grosse bise à Victoria. Qui ne minaude pas du tout. Alors je peux vous dire, la connaissant, qu'elle est tout sauf minaudière. C'est joli, minaudière.
Oui.
J'ai reçu une très belle carte postale de vœux avec une formidable photo de Madame Cosima Wagner que je mets de côté et que je montrerai à Marie-Rose et à Jean. Marie-Rose et Jean, c'est des amis qui aiment particulièrement Vanier. Monsieur... quel était son prénom? Richard. Richard Vanier, compositeur de musique de son état. Voilà, donc une très jolie carte postale que je mets dans ma poche. Le dimanche 3 février, dans les salons... Pourquoi je vous lis les annonces? Parce que Olyndre n'est pas arrivé. J'ai autour de cette table plusieurs invités, dont Nicolas Portier, d'Aspect de la France. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir
Serge. Christian de la Mazière, du Choc du Mois. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Nicolas Bronal. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Deux minutes, du Minitel Minute. Vous savez, vous pouvez... Il y a un Minitel Minute, faites 36-15 minutes. Oui. On fait 4 pages de publicité par semaine dans le journal, et tu dis, ah bon, merci Christian.
Mais je ne regarde pas la publicité, je sais c'est utile pour les journaux, mais voilà. Je ne lis pas la publicité.
En tout cas, il y a un Minitel Minute, qui est 36-15 minutes, et c'est Nicolas Bonal qui le gère. Donc c'est forcément bien.
Enfin, je suppose, parce qu'on dit que c'est un crâne d'œuf.
C'est une tête d'œuf, comme on disait, une vraie tête d'œuf, un crâne d'œuf. Bon, alors donc voilà, tout le monde est là, sauf, puis naturellement... Françoise, que vous venez d'entendre la voix d'eux, mais on attend Olyndre qui m'avait juré, ma parole d'honneur, qu'il serait là à 18h.
Non, mais il doit préparer aussi un petit peu la grande réunion qui aura
lieu. Le grand métage du métropolitain qui aura lieu à partir de 20h, je vous en parlerai tout à l'heure, au Palais des Congrès. Alors même si vous n'avez pas réservé, vous pouvez essayer de venir au Palais des Congrès de la Porte Maillot. Le meeting avec Jean-Marie Le Pen qui parlera. Je signale que Jean-Marie Le Pen n'a pas parlé en public depuis combien? 6 mois presque.
Oui, c'est le premier grand meeting politique.
En plus, au Palais des Congrès, contrairement à ce qui se passe au Bourget, on est assis confortablement. Ouais. Et puis il y a un service de sécurité, je vous dis pas, vous êtes plus en sécurité que chez vous. Hein.
Et il y a un grand parking.
Un immense parking.
Immense parking qui permet aux voitures d'être rangées sans être enlevées.
Voilà. Donc, à partir de 20h, on se retrouve tous, et je vais même vous faire une confidence, on y sera tous, enfin en tout cas, Christian, Nicolas, je crois, et moi-même, et Françoise Varlet, pour ce qui est de Monsieur Portier, je ne suis pas certain qu'il ira, si, il ira quand même, enfin, il n'ose pas le dire, bon, enfin, on verra, mais il ira faire une étude de mœurs, voilà, en tant qu'ethnologue, Parce que les liens sont un peu distendus en ce moment entre l'Action française et le Front national, j'ai remarqué.
Non, je sais pas.
Il y a du mou dans la corde à nœuds. Hein, un petit peu quand même.
C'est pas grave.
C'est pas grave. De toute façon, on sera tous du même côté de la barricade.
C'est une maladie française.
Absolument.
De marquer sa différence.
Alors, je vous disais donc qu'en attendant que Olyndre veuille bien prendre la peine de tenir sa parole, j'espère qu'il m'écoute dans sa voiture, qu'il doit être bloqué dans un embouteillage et qu'il peste, je vous lis quelques communiqués. Donc, le dimanche 3 février, dans les salons du Palais des Congrès de Versailles, se tiendra la bourse aux monnaies du cercle numismatique versaillais, ouverture de 9h30 à 18h. À force de persévérance, le cercle est parvenu à faire de sa bourse annuelle l'une des plus remarquables manifestations du genre en France. En 91, cette bourse sera la 10e en date, et à cette occasion, le cercle a entrepris de tout mettre en œuvre pour lui assurer un succès plus vif encore que d'habitude. C'est passionnant, les bourses aux monnaies, enfin tout ce qui est numismatique, c'est extraordinaire. Parce qu'on se demande comment d'aussi petites choses peuvent valoir aussi cher. Mais c'est plein d'histoires.
Exactement. Hein.
Moi, je me suis baladé pendant des années, pendant 3 ans, avec une pièce extraordinaire sur moi que je gardais précieusement, qui représentait une tête de roi. Voilà Hollande qui arrive. Qui représentait une très belle tête de roi. C'était un peu un genre Louis XIV, quoi. Et un jour, j'ai montré ça à un numismate qui m'a dit oui, je connais, ce sont des pièces fake, fausses, bidons, que les Autrichiens pressent par dizaines de milliers. Et moi, je l'avais gardé comme une, en me disant si un jour je suis vraiment dans la misère, je la vendrai. Non, mais c'est raté, donc. Mon cher Roger Olyndre, bonsoir.
Bonsoir.
Nous t'attendions en lisant quelques dépêches. Et maintenant que tu es là, on va continuer à lire les dépêches, parce qu'il faudrait quand même pas que tu croies que sans toi, le monde n'existe plus. Alors, une lettre, quand même. Et c'est une question à laquelle on consacrera un jour une émission. Tiens, Roger, je suis bien content que tu sois arrivé au moment où j'allais la lire, parce que c'est un auditeur qui nous pose une question qui est posée, je crois, une fois par semaine, pratiquement, et qui est la suivante. Le général de Gaulle est très souvent l'objet de vos critiques, notamment au sujet de l'abandon de l'Algérie. Je me suis moi-même posé des questions au moment de la rupture sur ses motivations. D'autre part, vous êtes, comme nous tous catholiques, très anxieux sur l'immigration maghrébine et l'envahissement par l'islam de la France, fille aînée de l'Église, par ailleurs bradée par la bande de F3.M, 3 points, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, qui nous dirige. Alors, ma question, que se serait-il passé si l'Algérie restant française avait fonctionné avec la libre circulation des personnes de nationalité française, mais musulmane, d'une rive à l'autre de la Méditerranée? Avec le recul du temps, de Gaulle n'a-t-il pas vu juste, dans l'attente de vous lire ou de vous entendre à la radio, je vous prie, cher monsieur, d'agréer l'assurance, etc.
Oui, mais je pense qu'il faut quand même...
Alors Roger, tu peux répondre, vas-y, mais on reviendra sur cette question.
Je pense qu'il faut donner une réponse, c'est vrai qu'on peut faire une émission là-dessus, qu'on peut en parler pendant des heures, mais parce que les gens oublient une chose. Tout le monde dit que nous nous sommes battus pour l'Algérie française. Moi, je regrette, je ne me suis pas battu pour l'Algérie française. Je me suis battu pour l'Algérie française et le Sahara français, ce qui change absolument tout. Hein, et les gens que nous étions, qu'on a présentés comme des crétins par la suite, des poivrons de la coloniale et autres, ben dans nos messes et dans nos discussions, on prévoyait de faire leur Afrique avec le Sahara et l'Algérie. C'était tout autre chose. Alors on nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire au Sahara? Ben on aurait fait au Sahara ce que les Juifs ont fait au Negev, c'est tout. On aurait amené la jeunesse d'Europe et là, eh bien on aurait fait leur Afrique avec tout ce que cela comportait. Et les gens de la région qui auraient été... je ne vais pas employer le terme noyé parce qu'on va encore le prendre dans un mauvais sens, mais qui aurait été au milieu de ces nouveaux apports de population, eh bien, on n'aurait pas été en Europe chercher le travail qu'on aurait amené sur place, c'est tout.
Et puis d'autre part, comme ils auraient été propulsés à des niveaux de confort qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui, on sait par expérience que, par exemple, leur démographie n'aurait pas été la même, leur intégration aurait été facilitée.
On a nié et renié 25 fois l'histoire, le fait que les femmes musulmanes avaient jeté leur voile et qu'elles étaient descendues dans la rue les premières et qu'elles étaient pour la francisation et pour la France, pour que la France reste là-bas. Il est bien sûr que les filles algériennes, aujourd'hui, d'origine algérienne, si elles étaient 100% françaises et si elles étaient intégrées, n'auraient plus 15 gosses, hein, il y aurait la télévision dans tous les gourbis, il y aurait d'ailleurs plus de gourbis, il y aurait des maisons, et ils auraient autre chose à faire le soir, hein, ils pourraient regarder la télévision.
Voilà, mais ça c'est un survol de la question, on y reviendra, on fera une émission spécialement là-dessus. Et si l'Algérie était restée française? Je vous invite d'ailleurs à écouter la deuxième partie de l'émission, car Roger, au début de sa réponse, vous a dit qu'il était pour le Sahara français, et la deuxième partie de l'émission est consacrée à un entretien d'une heure et demie, avec Eloge Boissonnade, qui est un grand journaliste, qui est un journaliste de radio, qui a fait de la radio pendant 40 ans, et qui a écrit, il y a maintenant une dizaine d'années, un livre qu'il vient de reprendre entièrement et de refondre entièrement, qui est consacré à Conrad Killian. Vous savez qu'on avait l'intention de faire une émission sur Conrad Killian depuis longtemps. Le personnage est fascinant. C'est l'homme qui a découvert par sagesse, par science et par intuition que le Sahara était un formidable réservoir de pétrole qui pouvait assurer l'indépendance énergétique de la France. Il s'est battu pendant des années pour essayer, pendant au moins 20 ans, pour essayer de faire reconnaître la validité de cette conviction par la classe politique française. Il s'est heurté à la bassesse, à la sottise, à la malhonnêteté des politiciens français et à l'ignominie de l'intelligence service et des services spéciaux britanniques, et surtout à l'abjection totale des pouvoirs du lobby banco-pétrolier ou pétrolo-bancaire. Il a fini par en mourir. On ne sait pas bien s'il est mort de chagrin, de douleur, c'est-à-dire s'il s'est suicidé ou s'il a été assassiné. Il faut lire le bouquin, le formidable bouquin de Eloge Boissonnade pour se faire une conviction. Eloge Boissonnade a le talent, l'intelligence et l'honnêteté de ne pas conclure lui-même, mais je crois que quand on a lu son livre, on peut très bien conclure tout seul que Conrad Killian était un authentique héros français, un héros de la science française, et qu'il n'est pas mort tout seul.
Et en plus, c'était un seigneur, et Boissonnade le raconte bien dans son livre, quand il arrivait sur son chameau blanc au milieu des tribus qui le respectaient. Et aujourd'hui, justement, avec cette affaire du Golfe, hein, où on doit défendre absolument les intérêts des États-Unis et les intérêts anglais, hein, je me demande si on se souvient qu'eux, ils sont pas mal foutus de nos intérêts à nous, et que Leclerc pensait que la France devait rester au faisant, et c'est bien les anglo-saxons qui nous ont fait chasser par les compagnies pétrolières.
Voilà, il faut quand même pas oublier que c'est deux jours après avoir donné des ordres pour que dans le golfe de Smyrne soit gardé, préservé le débouché du pipeline qui devait apporter le pétrole du faisant, que Leclerc a été tué dans un accident d'avion quand même qui tombait, si j'ose dire, à pic. Ouais. Je reprends les informations d'ordre général, les annonces. Maître Jean-Baptiste Biaggi, avocat à la Cour, ancien député, représentera le Front National à l'élection sénatoriale, faut que je parle plus lentement, à l'élection sénatoriale du dimanche 10 février 91, élection consécutive au décès de M. Pierre Bourgine. Voilà encore quelqu'un dont on parlera un jour peut-être avec nos amis de Valeurs Actuelles, qui était un grand patron de presse, un grand bonhomme de presse, que j'ai eu l'honneur de bien connaître. Je veux dire qu'on n'était pas très amis, mais j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Maître Biaggi a désigné M. Pierre Durand, directeur de Présent, comme suppléant. Alors, ce soir, je vous le rappelle, au Palais des Congrès, à partir de 20h, vous pourrez voir et entendre, outre Jean-Marie Le Pen, qui fera son grand discours de rentrée et d'actualité, Serge Martinez, directeur de Minute et candidat du Front National dans le 15e arrondissement, Marie-France Tirebois, députée du Front National de l'Eure-et-Loire, il avait raison, Philippe, la semaine dernière, c'est bien l'Eure-et-Loire, et puis on verra Dafos, qui est la grande surprise, il faut bien le dire, la grande surprise médiatique, parce que nous, on savait depuis longtemps, mais visiblement les médias n'avaient pas compris, de dimanche dernier, puisqu'il a obtenu un score de près de 30% à Clichy-sous-Bois, il sera présent, et Jean-Baptiste Biaggi et Pierre Durand qui seront présents également au début de ce congrès. Le Front National de la Jeunesse communique que le vendredi 25 janvier 91, c'est-à-dire après-demain ou demain pour ceux qui nous écoutent jeudi à 20h, à la salle des agriculteurs 8 rue d'Athènes 7508 Paris métro Saint-Lazare, de jeunes orateurs parisiens et leurs invités prendront la parole avec Martial Bild et Roger Olindre. Roger, je ne savais pas que tu étais un jeune orateur parisien. Voilà. Je suis content de l'apprendre. Pour dénoncer le laxisme qui met notre pays à la décadence et à la ruine. Alors, je rappelle que c'est Salle des agriculteurs, 8 rue d'Athènes, à 20h le vendredi 25 janvier. Quoi d'autre encore? Pardon, je fais tomber les papiers. Le centre... ça, c'est beaucoup plus important que tout, je vous le dis tout de suite. Le Centre Henri et André Charlier vous remercie de bien vouloir assister à la conférence de Serge de Bekech, la désinformation triomphante qui aura lieu le jeudi 31 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine, pas demain, mais la semaine prochaine, jeudi 31 janvier à 19h30, amphithéâtre de la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, Paris 6e, métro Port-Royal, table de librairie, participation aux frais 30 francs. Je suis toujours étonné de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à payer 30 francs pour venir m'écouter, mais enfin, après tout. Donc voilà, je ferai une conférence sur la désinformation, ce qui est vraiment le sujet du jour.
Ouais.
C'est d'ailleurs le sujet du dernier numéro de du numéro de Minute qui est paru ce matin, l'arme du mensonge. Notre Victoria étant bronchiteuse, nous n'avons pas reçu National Hebdo, je ne peux donc pas vous dire quel est son titre, puisque je ne l'ai pas vu. Est-ce que quelqu'un connaît le titre de cette semaine de National
Non,
Hebdo?
Non, pas encore.
Bon, alors que ça vous...
je l'ai pas reçu.
Que ça ne vous empêche pas de l'acheter dans tous les bons kiosques à journaux. Tiens, mercredi 23 janvier, grand meeting de Jean-Marie Le Pen en soutien à Serge Martinez, candidat à l'élection législative partielle de Paris à 20h au Palais des Congrès de la Porte-Maillot, mais ça, j'en parle même pas. C'est juste pour mémoire qu'on le dit. En raison de la fermeture des bureaux de vote à 20h dimanche 27 janvier, l'émission Le Club de la Presse d'Europe 1 avec Jean-Marie Le Pen est reportée à une date ultérieure.
Ah bon?
Ça veut dire qu'il n'y a que Rocard qui a le droit de parler à la radio pendant les périodes électorales. Jean-Marie Le Pen, lui, il n'a que le droit de se taire. Voilà, donc il parlera pas sur Europe 1. En revanche, il parlera à Lyon le jeudi 24 janvier 91 pour soutenir Alain Breuil. Ben, jeudi, c'est demain. Je pense pas que vous aurez le temps d'aller à Lyon. Mais enfin, si vous avez le temps, descendez donc. Et Alain Breuil et Bruno Gollnisch, candidat de la deuxième circonscription. Le Centre André et Henri Charlier vous remercie de bien vouloir annoncer la conférence de Serge de Bekech sur la désinformation triomphante, jeudi 31 janvier à 19h30. À l'amphithéâtre de la FACO, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, à partir de 19h30, c'est ça. Il me semble que j'en ai déjà parlé, non?
Oui, il me semble.
Tweet aussi. Oui. Lundi 28 janvier 91, Jean-Marie Le Pen, mais on parle que de lui dans cette émission, et l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, quelle chance il a, sur Europe 1 à 8h20, il est matinal.
Oui.
Ah, je vous signale, on en reparlera avec l'auteur, les auteurs. La parution d'un bouquin qui est une idée formidable, qui est le guide Argus du livre politique sous l'occupation.
Bergeron.
Alors c'est signé Agathon et Vulfran Maury.
Oui.
C'est bien. Ouais. Alors c'est formidable, c'est un document extraordinaire d'abord parce qu'il y a à peu près l'exhaustivité, on dit ça, de ce qui est paru pendant l'occupation. Et Christian, tu peux peut-être nous en dire un mot.
Non, mais je ne l'ai pas entièrement lu, mais en grande partie, d'abord parce que un des auteurs est un ami précieux, c'est-à-dire un ami de grande qualité, et je dois dire qu'il a fait un livre tout à fait que l'on doit avoir dans sa bibliothèque, parce que c'est une référence permanente.
Ah, je crois.
On ne dit pas assez d'ailleurs que dans notre droite, puisque on nous met toujours un signe singulier. Dans notre droite, il y a une qualité d'auteur de livres de référence qui servent à nos adversaires bien souvent, et même trop souvent, parce qu'ils sont bien faits, bien documentés, et d'une objectivité sur laquelle il est difficile de revenir.
Ah mais c'est un bouquin formidable, parce que vous découvrez par exemple que le comte d'Ornano a publié en 1943 aux éditions Balzac un livre intitulé « Laisse faire le temps » qui a été interdit le 15 janvier 1945, et si vous le trouvez, il vaut 60 francs. Noël Dornan a publié « Les jeudis du maréchal » en 1943 aux éditions GP. C'est un livre de 42 pages avec 11 photos, couverture rouge décorée d'un portrait du maréchal de profil. Maréchal, c'est naturellement le maréchal Pétain, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas le maréchal Hindenburg. Donc deux fois par mois, le maréchal consacre son jeudi à recevoir des Français venant de zones occupées, de zones interdites et de la zone libre. C'est un livre qui vaut 80 francs. Drieux-La Rochelle.
C'est incroyable.
Les prix sont
extraordinaire.
Drieux-La Rochelle, nationaliste de formation, influencé par l'Action française, s'associe à son ami Emmanuel Berle pour faire paraître une revue pamphlétaire. Les derniers jours, à partir de 1934, il se programme fasciste. En 1936, il est le chef de file des intellectuels ayant rejoint Jacques Doriot au PPF. Deux ans plus tard, il rompt avec Doriot et prend la direction de la nouvelle revue française de Gaston Gallimard. En 1942, il renoue avec Doriot. Il se suicide le 15 mars 1945, laissant derrière lui une œuvre littéraire de premier plan. Alors donc, il a publié Écrit de jeunesse chez Gallimard, 286 pages,
qui reprend des textes publiés entre 17 et 27, chroniques, choses vues et nouvelles. Il reprend interrogation, fond de cantine, la suite dans les idées, le jeune européen et défense de sortir. Ça vaut 300 francs ce livre. Il y a tous les autres livres de Drieu, le Gilles par exemple, qui vaut 300 francs dans son édition réédité après la guerre. C'est extraordinaire. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ben, par exemple, je tombe sur une petite brochure sans date, mais probablement de 42, qui s'appelle Djibouti vous parle, qui est édité par le secrétariat d'État aux colonies, 64 pages, illustrations, photos Karine Quarto, résumé des principales émissions de Radio Djibouti du 15 août au 5 novembre 41. Djibouti refuse de se livrer à l'Angleterre et reste fidèle au maréchal. Donc, à travers ce livre qui est un guide Argus, vous faites une plongée formidable dans l'histoire de la presse et de l'édition pendant l'occupation. Hein ? C'est publié par, si je ne m'abuse pas, et je crois que je ne m'abuse pas vu l'allure du livre, notre excellent camarade, je voudrais pas dire de bêtises, notre excellent camarade du cercle franco-hispanique dont le nom décidément ne veut pas me revenir en tête, et donc je vais m'abstenir de le dire, on va m'appeler pour me dire ça tout de suite, parce que j'ai un blocage, vous aussi visiblement. Voilà, c'est ça. Donc, ben, c'est pas grave. En tout cas, c'est publié par le Cercle franco-hispanique. Boîte postale 33-716, 75-767 Paris, CEDEX 16. Et c'est vraiment le catalogue des livres et brochures parus en langue française pendant l'occupation avec toutes les cotes. C'est un travail formidable.
Fantastique.
Formidable travail d'historien.
Un travail de fourmi.
D'historien de base. C'est avec ça que les historiens, après, vous font des analyses de 800 pages sur la presse pendant l'occupation. Voilà. Le Sahara et son pétrole, on l'a bradé. Maintenant, il faut se laisser tuer sur l'autre. C'est curieux, non ? Ça, c'est un avis d'auditeur, et ça sera le sujet de la deuxième partie de l'émission. Mais ça va être aussi le sujet de la première partie, parce que j'ai donc autour de cette table messieurs Portier, Olindre, Lamazière et Bonal, avec lesquels nous allons essayer de voir quelles leçons, quels enseignements on peut tirer de la situation présente. Avant, je voudrais quand même vous donner connaissance d'un communiqué qui a été publié par Roger Olindre et le Cercle National des Combattants, et qui va, je pense, situer le débat. La crise du Golfe qui vient de déboucher sur une guerre qui risque de chambouler la face du monde semble avoir trouvé ses champions. Les antimilitaristes, les porteurs de valises du FLN, les amis de M. Chevènement qui disaient hier « l'armée ça pue et ça rend con », ceux qui, comme le ministre de la Défense, voulaient l'encadrement politique des armées et leur soumission opérationnelle au peuple souverain, l'actuel président de la République lui-même, qui, député lors de l'affaire de Colvézi, se précipita à la tribune de l'Assemblée et annonça « les avions transportant nos parachutistes ont quitté la Corse », avertissant ainsi l'ennemi, tous les déserteurs, les réformés pour débilité mentale, comme M. July, tout ce beau monde découvre aujourd'hui que nos soldats, marins et aviateurs sont beaux, motivés et respectent leurs contrats envers le pays. Quelle ignominie, quelle honte. Ces gens de gauche feraient mieux de se taire, tout comme les donneurs de leçons de la droite molle, qui, politiquaires avant tout, essayent de faire croire que ceux qu'ils appellent l'extrême droite et qui ont clamé dès le départ que la France n'avait rien à faire dans ce gouttre sont aujourd'hui arrangés dans le même panier que les marxistes. Le Cercle National des Combattants s'élève avec la plus extrême énergie contre ceux qui mentent aux Français, qui falsifient l'histoire, qui tronquent les informations, qui profitent des médias qu'ils ont monopolisés pour influencer l'opinion publique, toujours versatile, et l'amener à croire que la France a des intérêts à défendre en se plaçant au nom des droits de l'homme sous les drapeaux des émirs et des rois du pétrole, souverains féodaux et esclavagistes. Le Cercle National des Combattants, regroupant des milliers de femmes et d'hommes ayant payé de leur chair et de leur sang la défense de la patrie, déclare que tout en se rangeant de façon massive et patriotique derrière nos soldats, il dit oui à l'armée française et soutient son combat, mais non au socialisme et à ces hommes qui auront déclaré toutes les guerres jusqu'à ce jour. Le CNC souhaite la fin rapide de cette guerre et le retour de nos soldats pour remplir la seule mission réelle qui leur incombe, la défense de nos frontières et l'intégrité du territoire national. Alors c'est un communiqué qui m'a d'autant plus frappé qu'il reprend, ou alors, il recoupe très exactement le dernier éditorial de Serge Martinez dans Minute cette semaine, qui dit précisément la même chose, c'est-à-dire cette guerre n'est pas la nôtre, mais les soldats qui la font sont les nôtres, et par conséquent, bien que nous soyons radicalement hostile à la politique qui a provoqué l'engagement de la France dans cette guerre, nous soutenons sans aucune hésitation et sans aucune arrière-pensée les soldats qui se battent, mais nous demandons qu'ils soient ramenés en France, parce que c'est en France que la question se pose de plus en plus, de façon de plus en plus aiguë à mesure que les heures passent, et non pas en Arabie Saoudite, où nos armes et nos soldats sont bafoués, méprisés, attaqués et déshonorés. Alors voilà, on me donne le titre de National Hebdo, mais c'est celui de la semaine dernière, coup de poignard dans le dos, c'est un peu le sujet, c'est le coup de poignard dans le dos de nos armées, mais c'est celui de la semaine dernière. Ce que je demandais, c'était le titre du numéro qui va sortir.
Moi, ce qui m'étonne quand même, si on peut commencer un peu ce débat sur la désinformation, c'est que il est quand même assez étonnant d'entendre ce que l'on entend, de voir à la télé ce que l'on voit. Enfin, on se croit, c'est pire que Timișoara, tous les gars, les manches retroussées, ils libéraient la Roumanie, aujourd'hui, ils font la guerre. Bon, moi, je crois que nous l'avons dit, nous le répétons, bien que les autres se refusent à l'écrire et à le clamer avec nous, que nous sommes derrière nos soldats, puisque nous avons été mis dans une situation difficile, nous étions contre cette guerre, mais dès l'instant où l'armée française est engagée, nous sommes derrière l'armée française. On n'a rien à voir, nous, avec les pacifistes, ni avec les communistes qui sabotaient le matériel ou qui trahissaient l'armée française au combat. Mais ceci ne doit pas quand même pas nous faire oublier une chose. J'entendais encore hier soir des soi-disant spécialistes qui ont peut-être raison malheureusement, parce que c'est cela je l'ai écrit depuis longtemps, disant qu'il n'y avait pas de relève possible pour nos 10 000 hommes qui sont sur le terrain. Alors l'infanterie française c'est 258 000 hommes. Et nous avons 10 000 hommes sur le terrain. Et nous avons une force d'action rapide qui a été prise sur ces 258 000 hommes. Une force d'action rapide qui fait 47 à 50 000 hommes. Et nous en avons envoyé 10 000 avec Dieu sait combien de problèmes. Il a fallu racler tous les fonds de tiroir de l'armée en France, de l'armée en Allemagne. Il a fallu enlever des matériaux de tir de nuit sur tant ou tant de chars. Tout ça ressemble à quoi? Nos deux porte-avions étaient à la casse au moment du commencement de la crise. Nous avons dû, pour transporter nos 10 000 soldats, traiter avec la CGT. La marine n'avait pas de quoi transporter tout ça. Alors on me dit, mais on a des batrales, on a deux batrales, on a un transport. Bon, mais lorsqu'on a fait une force d'action rapide, je peux d'autant plus, moi, poser cette question aujourd'hui que nos amis oublient quand même que nous avons été députés et que nous avons été, moi-même, avec Jean-Pierre Revaux, avec Pierre Sergent, avec Peyrat, avec Porte de la Morandière, nous étions 5 députés du Front National à la Commission de la Défense Nationale. Et moi, je suis monté au créneau à 20 reprises. Eux aussi, mais moi j'étais spécialement axé sur cette histoire. Je leur dis, mais votre force d'action rapide, en quoi est-elle rapide? Avec quoi vous la transportez? Pour faire Colvézi, il a fallu emprunter des avions aux Américains. Pour demain aller n'importe où, il faudra demander l'autorisation des Américains ou l'aide des Américains. Avec quels avions allez-vous les transporter? Avec quels bateaux allez-vous les transporter? On nous riait au nez, on ne nous répondait pas. Alors, où sont passés les crédits de la défense nationale? Ça fait des décennies qu'on dépense des milliards. Où est passé cet argent? Je ne parle pas, bien sûr, des bakchiches touchés par tous ces messieurs, grâce à l'armement qu'ils ont vendu à M. Saddam Hussein. Parce qu'enfin, on semble oublier ça. Mais moi, je me bats pour qu'on demande des comptes à ces gens-là. Ils croient vraiment que demain, on ne va pas leur demander des comptes. Mais je me bats, moi, pour qu'on demande des comptes. Où est passé l'argent de la défense nationale, puisque nous ne pouvons pas aligner aujourd'hui plus d'une vingtaine de mirages en raclant partout. Je crois qu'on va en aligner une quarantaine. Mais ce sont des avions qui datent de 1970. Bravo, félicitations à nos pilotes de faire voler des tas de ferrailles pareilles. Mais le restant, les blindés, je répète, j'attends qu'on me démonte, il a fallu racler tous les pans de tiroir pour avoir des blindés à roues en nombre assez conséquent pour partir. Et il a fallu enlever les pièces nécessaires pour le tir de nuit. Nous avons raclé toutes nos munitions, et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas relancé encore les chaînes de fabrication de munitions. Nous avions 150 000 masques à gaz, nous les avons vendus. Nous les avons vendus aux Saoudiens, et qu'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Nous les avons vendus aux Saoudiens, au même titre que tout ce qu'a M. Saddam Hussein aujourd'hui, le fameux Nouvel Adolphe, c'est nous qui lui avons vendu. Nous avons fabriqué spécialement des engins qui permettaient à Saddam Hussein de mettre les exocets sur les avions, les mirages qu'on lui livrait. On lui a prêté et loué location-vente, comme Mattei loue des bagnoles. On lui a loué cinq super étendards venant de nos porte-avions. On a fait 50 livraisons d'uranium enrichi à M. Saddam Hussein.
Ce qu'il faut ajouter, Roger, si tu me permets de te couper une seconde, non, c'est que Saddam Hussein n'a rien payé. Il n'a fait que verser des pots de vin aux intermédiaires, pots de vin qui ont été reversés aux partis politiques. Oui. Qui était au pouvoir au moment où ces opérations ont été menées, si bien que la France a livré gratuitement pour 25 milliards de dollars de matériel militaire à Saddam Hussein, lequel Saddam Hussein a reversé le centième de cette somme à des partis politiques qui étaient au pouvoir à l'époque. Et il n'a jamais payé le principal.
C'est sûr. Alors, nous étions contre cette guerre. Bon, et aujourd'hui, je le dis bien fort... Moi, je laissais tout tomber, je partais, manque de peau, je n'ai plus l'âge pour partir, mais je me sens vraiment aux côtés des soldats qui feront leur boulot, qui le feront sérieusement. Nous ne voulions pas cette guerre. Bon, ils ont envoyé ces unités, mais nous, on peut quand même leur demander comment. Vous osez dire qu'il n'y a pas de relève possible? Vous osez le dire qu'il n'y a pas de relève possible? Sur une armée où rien que l'infanterie fait 258 000 hommes. Il n'y a pas de relève pour relever 10 000 hommes.
J'ai l'impression...
Et si demain, il y a de la casse?
J'ai l'impression qu'on est en train de créer une armée leurre. Les Irakiens utilisent des cibles leurres pour tromper les pseudo-super-cerveaux des missiles américains. Et la France a des super-cerveaux qui ont créé une armée leurre. Effectivement, on dit qu'il y a 258 000 hommes. Il y en a 10% ou 5% qui sont opérationnels maintenant.
Il ne faut pas non plus oublier une chose. C'est que les unités qui sont parties là-bas, ces messieurs les socialistes voulaient les dissoudre. Hein? Bah, je suis quand même étonné, moi, d'entendre, c'est ce que je dis dans ce communiqué du SAC national des combattants, d'entendre aujourd'hui que les soldats sont beaux, ils sont dignes, ils sont... Hein? Mais ces gens-là leur ont craché à la gueule pendant des décennies. Oui. Hein? Et aujourd'hui, même les parents ont bonne gueule, et les légionnaires, ah, les braves légionnaires. Mais tout ça est honteux, honteux, c'est indescriptible. Et tous ces gars de la télé et de la radio me donnent envie de vomir.
Nicolas Portier.
Ah, moi, je souscris totalement à tout ce que dit Roger Olyndre. Bon, c'est notre position officielle. Pour ça, je comprends pas. Vous parliez tout à l'heure de différent avec le Front National. Nous aussi, nous avons exactement la même vision des choses. Et je crois qu'il faut aujourd'hui, en effet, tirer les enseignements. C'est-à-dire, il faut, à mon avis, pour que nous soyons plus efficaces politiquement, à mon avis, il faut que nous sachions, même si c'est difficile, ne pas systématiquement, parce que nos soldats sont engagés, même s'il est clair que nous les soutenons, même s'il est clair que nous pouvons les aimer, même s'il est clair que nous sommes avec eux, ne pas partir systématiquement parce qu'ils sont engagés dans une surenchère patriotique et nationaliste, alors qu'aujourd'hui le patriotisme et le nationalisme nous pousseraient plutôt à faire désengager les forces de cet endroit du monde où nous n'avons pas des enjeux directement menacés. Je crois qu'il faut tirer en effet des enseignements de cette situation. Parce que d'abord, en effet, il y a une situation militaire assez grave qui a quand même été l'aboutissement de politiques, de laxisme militaire, de laxisme budgétaire. Et on essaie de faire partir aujourd'hui, après des années de pacifisme, on essaye de changer de discours, mais comme cela a été souvent fait au cours de l'histoire française, de changer subitement de discours pour partir faire la guerre du droit, la guerre des droits de l'homme, dans le désert... Non seulement pas pour défendre nos intérêts, mais même pour aller contre nos intérêts. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, aujourd'hui, nos intérêts sont menacés. Non pas forcément d'être impliqués là-bas contre des anciens alliés, mais aussi nos intérêts sont menacés en France. Il y a une communauté musulmane que la loi l'Oumma lie totalement et de plus en plus à Saddam Hussein. Alors aujourd'hui, en effet, de partir, de se faire les pipelets, du patriotisme, comme se font les pipelets du patriotisme, les libéraux ou les socialistes, qui crachaient sur toute idée de nation, sur toute idée de patrie, il y a quelques mois encore, quelques années encore, partir en effet au nom de l'ONU, au nom de l'alliance américaine qui commençait à se distendre, en effet faire partir pour faire la guerre là-bas, je trouve ça dangereux. Mais à mon avis, ça cache quelque chose. On part faire la guerre là-bas, non seulement en effet parce que les Américains ont dû nous en intimer l'ordre. Mais on part faire la guerre là-bas aussi parce que ça correspond peut-être à une morale, une soi-disant morale internationale, à laquelle nos démocrates font semblant de croire. Mais je crois qu'on part aussi là-bas parce qu'on est bien content de cette situation de guerre. On est bien content d'avoir aujourd'hui une situation conflictuelle qui permet d'essayer de ressouder une union sacrée qui commençait à être totalement absente en France. On est bien content de partir faire cette guerre à un moment où la démocratie française et même les démocraties occidentales étaient en totale implosion. Au moment où commençait à y avoir des scandales en France, il commençait à y avoir une crise de régime. On est bien content à l'Élysée d'avoir cette guerre qui permet en effet de faire remonter sa cote, la cote du président de la République, dans les sondages. Et à chaque fois, ça a été le même processus. La guerre de 1914, même si nous avons été obligés de la faire, même si nous avons été obligés de faire l'union sacrée, a permis à la démocratie, dont le pourrissement oligarchique était latent, cette guerre de 1914 a permis aux démocraties de se ressouder sur le traité de Versailles, de repartir avec une espèce de morale américano-maçonnique, de recréer une espèce de situation instable en Europe au nom des mêmes principes moraux, au nom des mêmes 14 points wilsoniens qu'on retrouve aujourd'hui, de mettre une anarchie totale en Europe et de recréer les conditions de la Seconde Guerre mondiale. De même, en 1939, les bellicistes, qui c'était ? C'est ceux qui votaient contre les budgets militaires 3 ans plus tôt. Je crois que maintenant, il faut tirer les enseignements. On ne peut pas systématiquement frapper sur la couture du pantalon en disant aux ordres parce que la patrie est en danger, parce qu'aujourd'hui, si elle est en danger, c'est justement parce que nous sommes dans cette guerre, c'est justement parce que on a fait venir 6 millions d'immigrés qui aujourd'hui peuvent en effet servir de terroristes, peuvent aujourd'hui servir en tout cas d'eau, peuvent servir de réservoir. Je ne dis pas que tous les immigrés, loin de là, évidemment, il y en a même qui sont très inquiets de la situation, ils ont peur en effet de conflits interethniques, ils ont peur de représailles, de ratonnades, et je les comprends un peu d'ailleurs, mais en tout cas ils peuvent servir d'eau, de réservoir à un terrorisme potentiel. Nous n'avons donc rien à faire là-bas, à mon avis, alors je crois qu'il faut dissocier ça en effet de notre solidarité avec les militaires. Notre solidarité avec les militaires, ce n'est pas de les pousser en effet à faire la guerre, une guerre qui n'est pas la nôtre, une guerre qui n'est pas une guerre française, ce n'est pas de sacrifier aujourd'hui le peu que nous ayons d'armées opérationnelles et de complètement aujourd'hui, et ça c'est aussi très très grave, de complètement dépouiller l'Europe des rares régiments, des rares unités encore opérationnelles, car aujourd'hui il n'y a quasiment plus rien en Europe. Cette phare dont on parle, qui est presque notre seule unité, enfin notre seul dispositif valable, on envoie cette phare au Moyen-Orient, l'Europe semble totalement vidée. Les Américains qui étaient en Allemagne sont tous envoyés, il n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils reviennent, c'est un autre problème, l'Europe est laissée totalement libre. Alors, je dis, pendant des années on nous a dit la menace soviétique, il a suffi de quelques effondrements de murs de Berlin ou autres, il a suffi de quelques images fortes, symboliquement fortes, pour que tout d'un coup tout s'effondre, comme s'il ne restait pas quand même une armée rouge, qui n'est peut-être plus marxiste, qui n'est plus communiste, mais qui est quand même une armée rouge. On le voit en Lettonie, on le voit en Lituanie, on a envoyé toutes nos forces là-bas, il ne reste plus rien en Europe. Alors je dis que cette guerre non seulement est une guerre qui ne correspond pas à nos intérêts, mais qui va même contre nos intérêts.
Merci Nicolas Porteur. Alors on vient d'entendre en quelque sorte la position de l'action française, et puis l'analyse d'un journaliste d'Aspect de la France. On a entendu.
Je ne suis pas journaliste.
Pas journaliste, non. Un des responsables de l'action française. On a entendu tout à l'heure la position de Roger Olindre, qui représente peu ou prou la position du Front National, plutôt prou que peu d'ailleurs. Ouais. Je voudrais que Christian de Lamazière nous dise quelle est sa position. Alors c'est une position personnelle, c'est une position qui ne représente pas une organisation politique.
J'en rejoins dans les grandes lignes ce qui a été dit, mais je crois que pour aborder ce problème d'une façon logique, calme, et donner aux auditeurs les moyens de parfaitement réfléchir sur ce problème qui est particulièrement grave, c'est de poser quelques questions sur lesquelles nous allons nous pencher les uns les autres. Pourquoi ce conflit? Comment a-t-il pu arriver? Pourquoi a-t-il été engagé aussi vite? Quelles en sont les causes? Quels en seront les effets? Je pense que si on répond à ces questions, nous allons arriver à des problèmes typiquement de politique intérieure française, mais aussi de politique internationale, qui sont liés extrêmement et qui vont peut-être éclairer un peu plus nos auditeurs sur notre position, pourquoi nous avons cette position. Elle n'est pas uniquement passionnelle, elle est, je le pense, réfléchie, parfaitement étudiée, et il nous faut, je pense, la leur expliquer, parce qu'elle est très importante et même très grave pour l'avenir.
Je crois que la première chose qu'il faudrait faire, je vais demander à Roger de faire ça rapidement, c'est de mettre en avant le mensonge
qui consiste à dire que notre position est, comme je l'ai lu dans un torche-cul, il n'y a pas d'autre mot, il faut vraiment employer ce mot-là, je suis désolé de le faire sur Radio Courtoisie, qui s'appelle le Midi Libre, dans lequel on lit cette phrase crapuleuse, écrite par un petit, un éboueur de presse, le Front National, dont le président a exprimé sa solidarité avec Saddam Hussein, gagne 4 points par rapport au dernier scrutin municipal. C'est l'analyse qu'un, ce qu'on appelle dans Schnorr un trou de chuc.
Ça prouve que Saddam Hussein est très populaire en France.
Publie le mardi 22 janvier 91 dans le Midi Libre. Le FN, dont le président a exprimé sa solidarité avec Saddam Hussein. Alors, ça c'est de la crapulerie de presse, c'est pas du journalisme, ça n'a rien à voir.
Je crois qu'il faut préciser tous ces problèmes.
Voilà, bon. Alors, ce que je crois, c'est que beaucoup de journalistes ont dit le Front National a la même position que le Parti communiste, dans cette affaire. Roger, je voudrais que tu fasses litière de cette déclaration.
Je voulais dire ça avant qu'on commence la discussion. Je te dis d'ailleurs que je suis content d'avoir entendu nos deux amis. Nous sommes exactement sur la longueur d'onde voulue. Nous sommes des patriotes français. Nous étions contre cette guerre, mais il ne faut pas oublier une chose. Le président de la République est le chef des armées, que qu'on le déplore ou non, c'est ainsi. Et l'armée est faite pour obéir au pouvoir légal. Alors qu'on ne compte pas sur nous pour appeler à la désertion ou à saboter le matériel ou autre. Nous sommes avec cette armée. Nous estimons que cette guerre est scandaleusement inutile, hein, et qu'on ne devrait pas y verser du sang français, mais puisque nous sommes engagés par la faute d'imbéciles criminels, bon, que nos soldats se conduisent le mieux possible en attendant qu'on puisse les rapatrier. Bon, je ne comprends vraiment pas comment tous ces gens qui, lorsque nous disons ici, hein, que nous ne voulons pas devenir musulmans, que nous ne voulons pas que des quartiers ou des villes de notre pays deviennent musulmans, deviennent des enclaves étrangères, que nous ne voulons pas que les mosquées remplacent nos églises, que nous voulons entre autres la préférence nationale, on nous accuse de racisme et de xénophobie, alors que nous n'attaquons pas en cela les musulmans ni les arabes. Et eux, tous ces gens aujourd'hui, hein, attaquent les Arabes de façon absolument ignominieuse. Moi, je n'ai rien contre le peuple arabe ou contre les musulmans de la planète. Je pense que chez eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que je ne veux pas, c'est que mon pays devienne musulman et que des étrangers, musulmans ou non, d'ailleurs, foutent le cirque chez moi. Mais chez eux, ils peuvent régler le problème. Alors je pense que dans cette discussion qui peut être longue, dans les exposés et les réalités de cette guerre, on pourra donner à nos amis qui nous écoutent un certain nombre de vérités, leur expliquer pourquoi et un certain nombre d'éléments.
Oui, par rapport à ce que disait Roger, que vous disiez tout à l'heure, il y a un lien à faire, c'est qu'en fait nous assistons à un duel pour la possession du monde actuellement, dont je parle dans une minute, c'est le duel entre le cosmopolitisme, représenté par la clique anglo-américaine, qui avait envoyé, disait Bernanos, des poitrines françaises à l'abattoir en 14 pour la démocratie, qui les a envoyées à nouveau en 39, et qui a envoyé la France pour Suez en 56, et qui aujourd'hui nous envoie à nouveau nous sacrifier là-dessus. Donc il y a cette clique cosmopolite anglo-saxonne, qui a un certain nombre de réseaux en France, et on ne citera pas lesquels. Et il y a ce que on peut appeler le monde arabo-musulman, ou l'islam, qui est la force la plus active depuis une cinquantaine d'années. Et là, on retombe sur un ensemble de dangers qui étaient soulignés par des écrivains dès la fin du siècle dernier. Déjà, c'était évoqué par Gustave Le Bon dans sa Civilisation musulmane. Il parlait d'un réveil arabe. Ça a été indiqué sous la forme de l'Orient par des écrivains comme Jacques Rohmer. Alors lui, il voyait plutôt un péril jaune. Puis, dans Robert Howard également, il y a un péril arabe qui est souvent indiqué dans certaines des nouvelles d'Howard. Et c'est-à-dire que depuis le début du siècle, on sent une montée de l'islam. Cette montée de l'islam, elle a été rendue très nette en France par Guénon et ses disciples, comme Michel Valzan ou Charles-André Gillis, qui montre que l'islam est ni plus ni moins que la religion. C'est-à-dire que les Arabes même sont la communauté axiale qui doivent permettre le rétablissement de l'âge d'or. Et ça, c'est en quelque sorte la ligne ésotérique du combat musulman extérieur. Mais il faut savoir que les musulmans sont convaincus que l'umma va devenir, sans faire un jeu de mots, l'humanité demain, et qu'il y a une volonté universaliste de créer partout dans le monde des républiques islamiques. Il y a déjà 4 millions de musulmans aux États-Unis, ils seront 6 millions en l'an 2000, c'est-à-dire qu'ils seront plus nombreux que les juifs, qui ont baissé d'ailleurs depuis la dernière guerre aux États-Unis, à cause des mariages mixtes essentiellement. Il y a une croissance énorme du nombre de musulmans en France, mais dans beaucoup d'autres pays d'Europe. J'ai discuté l'autre jour avec un nationaliste serbe qui me disait, mais nous, en Yougoslavie, nous en avons 4 millions. En Allemagne, il y a 3 millions de Turcs. On peut rappeler d'ailleurs à cet égard que la Turquie, soi-disant, alliés des Occidentaux,
se voit avec 89% de gens qui sont hostiles à la guerre. Et donc, au niveau mondial, et là, donc, je rejoins ce que disait Lamazière tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a à la fois un combat entre, au niveau français et au niveau mondial. La France, on est placé pour le savoir, la terre de Jeanne d'Arc et de Clovis est devenue une cible privilégiée des deux cosmopolitismes. Du cosmopolitisme anglo-saxon, fondé sur le métissage, le fric, la culture rococa, dont le professeur Bardet a parlé hier à la Maison des agriculteurs. Et de l'autre côté, le mondialisme musulman, le mondialisme islamique, qui a une volonté énorme d'arriver à conquérir la planète à court terme. Et ça, donc, c'est absolument essentiel. Et puis, il y a une autre chose dans cette guerre qui est phénoménale, et dont on a parlé beaucoup dans Minutes dans le numéro de cette semaine, c'est la première guerre organisée par les médias, la première guerre organisée par ce que Debord appelle la société. Qu'il fallait penser de Timisoara, ce qu'il faut penser de Carpentras et maintenant de cela. C'est-à-dire, on est dans une société où l'excès d'information arrive à la négation totale de l'information et on arrive dans un trou noir total, une impossibilité de connaître réellement ce qui se passe. Et l'information devient, c'est ça, l'information devient un rideau, ouais. Mais ce rideau, cet écran télé, est un écran noir qui nous permet absolument pas de savoir ce qui se passe sur Terre. Et là, on en retombe donc sur ces fameux leurres qu'a posé l'Irak. Et là, c'est les pièges dans lesquels est tombée la société du spectacle et la guerre wargame, videogame des Américains. Ils ont vu des espèces d'objets en bas quand ils ont pris leurs photos satellites depuis 6 mois au-dessus du Golfe. Ils ont cru que c'était l'aviation ou les cibles militaires irakiennes. Ils ont plombé dessus. Ça n'a servi à rien parce que Saddam Hussein les a pris à leur propre jeu. Donc, et cette guerre de la société du spectacle, on a vu donc, dès le début, en juillet, août, enfin août-septembre, les médias, l'événement du jeudi, FR3, etc., sèment la haine contre les Arabes. Haine contre les Arabes qui a été menée de main de maître depuis plusieurs années. D'abord par les films américains, Rambo, etc., ou les Chuck Norris, qui ont été également financés par le Canon Group qui appartenait à des Israéliens. Haine contre les Arabes qu'on a retrouvé au moment de l'affaire Rushdie. Agression totale comme agression contre les chrétiens à la même époque sur la religion musulmane. Et évidemment, autre agression, c'était à propos de l'affaire du voile, où les médias se sont polarisés totalement dessus. On n'aura pas à s'en plaindre à nous, puisque c'est grâce à ça qu'on a remporté les Dreux. Mais d'un autre côté, c'est vrai, non mais ce qu'il faut comprendre dans ce conflit qui oppose ces deux monstres, c'est que nous sommes le petit David au milieu de deux Goliaths qui vont s'affronter, au milieu de ce Fafner et de ce Fassol de la légende germanique qui sont en train de se bouffer. Nous sommes le petit Siegfried, le petit héros germanique qui attend que ces deux géants énormes s'effondrent et se battent. Et nous espérons, en fin de compte, pouvoir récupérer toute cette haine et toute cette lutte entre ces deux géants et être ceux qui transformeront Dreux local en un Dreux national et pouvoir profiter de cet effondrement. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque les journalistes sont en train de découvrir que les musulmans ne sont pas sur la même longueur d'onde, avant de découvrir d'ici peu que peut-être les intérêts des Américains et les nôtres n'étaient pas les mêmes.
Moi, je pense qu'on devrait revenir un tout petit peu en arrière. Il faut quand même, comme l'a dit tout à l'heure Olyndre, c'est très important, rappeler les responsabilités des uns et des autres au service, et bien souvent au service de gens que Banal vient de nous citer et de groupes qu'il vient de nous citer. Mais enfin, faut pas oublier que l'affaire du Proche-Orient est une affaire qui est en cause depuis 1920. On l'oublie trop souvent. Ça s'est étendu très lentement, puis ça s'est accéléré avec la dernière guerre. Et après la dernière guerre et la création de l'État d'Israël, sur lequel d'ailleurs je ne reviendrai pas, puisque c'était un postulat que l'on devait admettre, les choses ne fait que s'envenimer. Si on revient à la position de la France, qui a été toujours une position contradictoire, ça a commencé avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, et ensuite l'Algérie surtout, ça a continué dans le domaine du Proche-Orient. Et les responsabilités sont très nettes, très claires. J'ai vu que notre ami Olyndre, dans son communiqué, a attaqué très vertement le ministre des Armées actuel. Cela dit, j'ai quelques petites faiblesses à son endroit quand je l'entends parler comme ce matin, ce qu'il a dit face à El Kabbach, le procureur El Kabbach, qui parle, je me demande, ça s'appelle pas Europe numéro 1, c'est autre chose, quoi. Bon, je dois dire qu'il a posé quelques problèmes qui étaient nets. La responsabilité politique de M. Giscard d'Estaing, qui aujourd'hui donne des leçons en ce qui concerne l'Irak,
Oui, il y a aussi la responsabilité politique du clone Pipo, qui est intéressant.
Exactement. Et il y a cette responsabilité des socialistes à l'égard de l'armée. Ils ont découvert l'armée dès qu'ils ont eu le pouvoir et ont commencé à modifier leur position, bien qu'ils, à aucun moment, ils n'ont donné les crédits réclamés, moderniser cette armée comme il le fallait, vendu, et ça, Hollande l'a bien rappelé tout à l'heure, tout ce qui était à la pointe technologique. Et nous sommes loin d'être en arrière-main, nous le savons, puisqu'à chaque fois, nous avons des grandes victoires sur nos amis, entre guillemets. L'Exocet est devenu célèbre parce qu'il a coulé un bateau anglais. Et là, en ce moment, on sait très très bien que la modification du matériel russe est le fait de la technique française. Oui. Elle n'est pas si mauvaise. Et il est évident que les avions que possède et qui ont été mis à l'abri et n'ont pas détruit, comme on l'a dit, par entre guillemets aussi les alliés, parce que il faut toujours faire référence à des situations politiques passées pour mieux faire avaler la pilule aux gens. La France a une grande part de responsabilité. Mais cette responsabilité, nous l'avions assumée, poussée par les pays occidentaux qui ont eu à une certaine époque une peur bleue de l'Iran. Sans oublier non plus que si l'Iran a basculé aussi vite dans le schisme, M. Giscard d'Estaing y a prêté quand même une main
plus que secourable,
tout ça qui est plus que malhabile. Alors, à cette époque, il faut dire cela. L'ambition de Saddam Hussein qui est vraisemblable. Le personnage qu'il est devenu, nous l'avons fabriqué, on a eu besoin de lui.
C'est un golem.
Les pays du Proche-Orient, l'Arabie Saoudite, le Koweït, tous ces émirs qui vivent d'une façon incroyable, utilisant une armée d'esclaves qui viennent des pays du monde entier, sans aucun droit, mal payés, contrairement à ce que l'on peut dire, sans couverture sociale, méprisés.
Sans papier.
Sans papier, on leur confisque leurs papiers, etc. Il ne faut pas oublier que ces gens ont demandé à l'Irak de se faire tuer pour réduire cette révolution chiite à néant. Quand cette guerre a été terminée, l'Irak a demandé le prix du sang. Elle a demandé des choses.
10 milliards de dollars.
Oui, elle a demandé d'abord qu'on annule sa dette. Elle a demandé ce qui était juste, qui avait été créé après la guerre, la ligne entre l'Irak et le Koweït, qui était une zone neutre, la zone pétrolière de Roumaï, et ils ont demandé le sud, parce que, profitant de la guerre, le Koweït, avec l'aide de l'Angleterre, a pompé le pétrole. Ils ont demandé les îles de Boubian et de Warba pour pouvoir
avoir un contrôle de l'accès
au Golfe Persique. Mm-hmm. Ça a été refusé. Ce qui est étonnant, nous sommes entrés dans l'histoire de guerre, alors que l'Amérique et le Conseil de sécurité, qui est tenu par l'Amérique, puisque c'est l'Amérique qui paie 80% des frais de l'ONU, le machin, comme a dit le général de Gaulle, il est bien entendu que dès le départ, il y a eu un dictat, dès le mois d'août, il n'y a pas eu de discussion possible. Ouais, cela dit, je pense que si on avait accepté cela, il était possible de discuter avec l'Irak, il était possible de demander un contrôle de l'armement, car il est vraisemblable que quand on a un excès d'armement, on aime bien s'en servir, et il aurait été judicieux à ce moment-là d'essayer de faire un contrôle de la puissance dans le Golfe. On a parlé de bombe atomique pour l'Irak, c'est faux. Il n'y a qu'un seul pays qui a la bombe atomique, on le sait, dans la région, c'est Israël.
Alors, si vous voulez, je voudrais vous proposer maintenant de répondre rapidement à quelques questions d'auditeurs. Par exemple, là, on a une question qui nous est envoyée par le fax sur 46 51 21 82. C'est Tristan qui nous passe cette question. Il fait d'abord une constatation. Il dit, quand un patriote détruit un faux scud, un scud leurre, on perd 8 millions et ça fait un patriote de moins. Quand un patriote, je rappelle que le patriote c'est le missile antimissile, détruit un scud réel, c'est bien, mais ça n'a rien d'extraordinaire puisqu'en fait il est fait pour ça. Quand un patriote détruit un scud leurre pendant qu'un vrai scud passe tranquillement à quelques kilomètres de là, c'est raté sur toute la ligne. Et alors il pose cette question. Mais quand un patriote détruit un vrai scud armé d'une tête chimique ou bactériologique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gaz chimiques ou les bactéries sont volatilisés dans l'atmosphère, ou bien est-ce que ils retombent doucement sur le territoire?
Ils retombent doucement sur le territoire.
Alors, dit-il,
nous savons.
Si ma supposition qui correspond à ta réponse est vraie, cela voudrait dire qu'une fois de plus, on nous raconte des bêtises et que le super gadget patriote n'est qu'un leurre politico-médiatique. Mais dans quel but ce mensonge?
C'est pas un leurre médiatique. Je ne pense pas. Je crois que Olyndre, qui est quelqu'un qui est très très au fait de l'armement moderne, pourra le dire. Non, d'abord, je crois qu'il faut poser le problème tel qu'il est. Jusqu'à nouvel ordre, l'Irak n'a pas envoyé de bombes chimiques.
À l'heure où on parle, là, c'est-à-dire à 19h précises, mercredi 23 janvier, parce que la semaine dernière, j'ai rigolé parce que les Américains n'avaient pas déclaré la guerre, et puis le temps de rentrer chez moi, ils avaient dû écouter Radio Courtoisie.
Mais je vais simplement ajouter quelque chose qui est très curieux. Nous avons, quand des choses aussi graves arrivent, nous avons toujours, en France en particulier et en Amérique, une certaine analyse très hautaine et qui devient souvent superficielle en ce qui concerne les qualités de nos adversaires de pouvoir juger eux aussi de ce qu'ils peuvent faire. Il semble que l'état-major irakien, après des années de guerre face à l'Iran, une guerre qui n'était pas tellement ancienne, bien qu'on ait voulu le dire, mais qui était une guerre moderne telle qu'elle peut se faire sur ces territoires tout à fait particuliers.
C'est-à-dire la sauvagerie antique et la technique moderne.
Mais l'état-major irakien a réussi à la barbe d'un espionnage électronique extraordinaire à travers l'atmosphère, à travers les espions du Mossad, etc., de camoufler une armée de plus d'un million et demi d'hommes, de la mettre sous terre, d'avoir 2000 chars, d'avoir réussi à soustraire une partie de son aviation à l'adversaire. On sait très bien que Saddam Hussein aurait pu attaquer avant le 15. On le pensait même. Imaginons un seul instant qu'il ait lancé simplement 100 avions sur Daran, sur etc. C'était un véritable désastre. Alors on peut constater une chose, je ne prends pas la défense de Saddam Hussein, mais il est quand même un peu drôle et un peu curieux, quoi, un peu malsain, la façon dont les médias le présentent toujours comme étant diabolique. Il a attendu que les autres l'attaquent.
Je crois que ça,
Il aura mis, comme l'a dit Bonal tout à l'heure, que des leurres sous le nez. Mais ce qui n'est pas un leurre, c'est la population civile. Là, on nous ment comme pour les pertes alliées, on nous ment réellement. Nous savons qu'il y a vraisemblablement plusieurs milliers, peut-être au moins une dizaine de milliers de morts et de blessés.
Je crois que l'explication est extrêmement simple de cette question-là, c'est tout simplement que les Américains n'ont pas oublié la guerre du Vietnam. Ils ont perdu la guerre du Vietnam à cause de la presse. Et ils ont perdu la guerre du Vietnam parce que la presse montrait quotidiennement à la télévision et dans les journaux les cadavres vietnamiens. C'est-à-dire qu'ils montraient que les bombardements, c'était pas de la vidéo war, c'était de la véritable guerre qui faisait de la viande hachée. Et si bien que l'opinion publique mondiale a fini par se dresser contre cette guerre, qui est une guerre qui tuait des gens, parce qu'on le voyait. Et ils se sont dit, les Américains, l'état-major américain, le Pentagone, a fini par se dire... C'est plus possible, il ne faut pas qu'on voit que la guerre tue, si bien que dans les premiers jours de cette guerre, tout le monde a cru que c'était un video game, un jeu vidéo, et les Américains appellent ça Nintendo War, C'est-à-dire, Nintendo, c'est le nom d'un jeu vidéo américain, enfin, japonais, qui est vendu à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde entier, une série de jeux vidéo. Et ils appellent ça Nintendo War. Et il y avait un titre admirable dans France Soir, qui était Feu, et le pilote appuie sur son joystick. Alors, le joystick, c'est le petit appareil qui permet de jouer un jeu vidéo sur son écran de télévision. Donc, les Américains sont arrivés. La propagande, parce que c'est de la propagande de guerre, et je précise que les Irakiens aussi font de la propagande de guerre. Tout le monde fait de la propagande de guerre.
D'une autre façon.
Mais la propagande américaine est arrivée à faire croire aux gens, pendant 3-4 jours, que c'était un grand jeu vidéo qui leur était offert par CNN Télévision, et dont ils allaient se régaler pendant 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, un général américain avait dit 2 heures. Ça a duré plus de 2 heures, se disaient les gens. Ça va durer, quoi, 48 heures, 72 heures. Bon. Et puis au bout de 72 heures, c'est fini. Le game is over. Hein, le jeu est terminé. On passe à autre chose. Manque de chance, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que c'était pas ce qui se passait. Et là, il y a un effondrement général de l'opinion publique, qui se dit, mais c'est pas possible, on nous a raconté des bêtises. Effondrement de l'opinion publique qui se trouve, l'opinion publique qui se trouve ranimée en quelque sorte par l'affaire des missiles sur Israël. Alors là, il y a un regain d'intérêt qui retombe d'ailleurs très rapidement parce qu'on nous dit, mais non, ces missiles ne tuent personne. Ces missiles, c'est des espèces de grosses boîtes de conserve qui tombent, qui font du bruit, qui blessent des gens. Les 3 morts sont des morts par crise cardiaque. Enfin, tout ça a un côté, à la fois dérisoire et répugnant. Mince. De qui se moque-t-on dans cette affaire ?
Cette surmatérialisation, elle arrive quand même aussi à ce qu'on passe sur toutes les chaînes américaines. Les soldats américains, les pilotes
Alors,
américains.
Justement, j'allais en dire un mot de ça, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Je crois que c'est le cœur du mensonge. Depuis 2 jours, on nous dit Saddam Hussein est une canaille parce qu'il montre, ce qui est interdit par la Convention de Genève, des prisonniers à la télévision. Or, je suis désolé, Saddam Hussein, il les filme ou il les fait filmer par ses caméras de télévision. Mais qui au monde reçoit la télévision irakienne? Absolument personne. Même les Irakiens ne la reçoivent pas, puisque l'équipement télévisuel de l'Irak, il est très loin d'être l'équipement télévisuel de la France. Il doit y avoir un poste de télévision pour 100 familles. En Irak, on va au bistrot pour regarder la télévision. Et d'autre part, il y a des zones entières du pays où la télévision nationale n'est pas reçue. En revanche, à partir du moment où ces émissions scandaleuses, révoltantes, contraire à la Convention de Genève, sont reprises et diffusées par CNN, c'est quand même pas Saddam Hussein qui est responsable, c'est les gens de CNN qui sont responsables
tout à fait,
de ça. Je veux dire que si un type fait des photos porno dans son arrière-boutique, si personne ne les met en circulation, ces photos porno, le type est un détraqué, et la personne qui pose pour lui, à la limite, est détraquée aussi, mais le vrai responsable, c'est celui qui distribue les photos porno à la sortie des lycées. On est exactement dans cette situation.
Mais là, c'est un coup de génie de Saddam Hussein. Donc, 2 choses au niveau de sa tactique. Je crois qu'il a laissé venir d'abord les Occidentaux, suivant une tactique bien orientale, qui est celle du Tao. Agir par le non-agir. Alors on laisse les Occidentaux se précipiter, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'armée. D'abord on est tout content, on se dit on écrase ces Arabes qui respectent pas la démocratie, c'est très bien. Puis au bout de quelques jours, il n'y a toujours personne, et puis paf, un petit missile qui tombe, et le terrorisme psychologique se met en place, les Occidentaux sont désarmés. Et ce qui est très intéressant dans cette diffusion des images par les chaînes occidentales des soldats américains blessés, humiliés, etc., ce qui est intéressant, c'est cela, c'est Danné qui en parle dans Libération. Il dit terrorisme iconique, donc terrorisme par l'image, au manque de visage de l'autre, c'est-à-dire Saddam Hussein, répond désormais l'exhibition par l'autre d'une autre défigurée, c'est-à-dire de notre visage défiguré. En fait, que fait Saddam Hussein? Il ne fait que nous repasser Apocalypse Now, il ne fait que nous repasser Platoon, il ne fait que nous repasser la série qui déplaît tant mon ami ADG ici présent. L'enfer du devoir,
qui est
totalement répugnante et qui est le pauvre soldat qui est malheureux parce qu'il a pris 3 claques et qui est désespéré. Et il a compris cela, que les Occidentaux fondamentalement sont devenus des lâches avec leur civilisation du gadget, qui ne veulent pas se battre. Il montre 3 photos de gars qui sont terrorisés et ça agit magnifiquement.
Nicolas, je voudrais dire un mot, après je donne la parole à Roger, je te donne la parole tout de suite. Quand vous dites il a compris ça, moi, personnellement, je suis absolument convaincu que Saddam Hussein n'a pas compris ça. Il y a quelqu'un derrière lui qui a compris et qui le conseille. Et comme ça peut pas être autre chose que les conseillers soviétiques, je suis certain que derrière Saddam Hussein, il y a des types, des grands professionnels de la manipulation qui sont des soviétiques et qui font un boulot d'expérimentation. Pour moi, la guerre actuelle dans le Golfe, elle est comparable par certains côtés à la guerre d'Espagne en tant que terrain d'expérimentation. Ouais. Et pour les soviétiques, c'est un outil formidable qu'ils sont en train d'apprendre à utiliser. Roger.
Ce que vous dites est très juste au niveau de, de la guerre Potemkine. Donc les cités Potemkine, ce sont ces cités que le ministre de la tsarine Catherine, vers 1770, met en place dans la Russie quand dans son empire, quand la tsarine décide de visiter son empire. Alors elle se balade et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déguisé les pauvres, il a construit des décors hollywoodiens qui font croire à la tsarine que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et effectivement, tous ces leurs, c'est des idées typiquement russes, typiquement soviétiques de mise en scène. De Grel en parle au début de sa campagne de Russie quand il dit on arrivait dans les villes staliniennes de loin et il a peur. De Grel, il dit mais peut-être que les ouvriers allemands qui sont venus là seront déçus de leur bien-aimé Führer et peut-être qu'ils vont se dire que le communisme valait mieux. Mais de loin, ces immeubles sont magnifiques et on se rend compte qu'il n'y a même pas de toilettes dans ces immeubles, qu'il n'y a même pas de murs. Voilà. Donc vraiment, c'est une invention soviétique.
Souvorov raconte la même chose quand il raconte dans son premier bouquin. Souvorov, c'est cet officier des services de renseignement soviétiques qui a transfugué il y a une dizaine d'années et qui raconte dans son livre comment les soviétiques invitaient le banc et l'arrière-banc des représentations militaires de toutes les ambassades de France à Moscou pour assister à des parades militaires et on leur présentait des milliers de chars sur un grand terrain au bord de la Volga. Mmh. Le problème c'est que les 200 chars qui étaient devant les tribunes étaient des chars et que tous les autres étaient des leurres en carton peint. Alors ce qui fait donner l'impression aux représentations militaires américaines, françaises, anglaises, allemandes, etc., que les soviétiques disposaient de dizaines de milliers de chars, et en réalité ils avaient quelques milliers d'engins utiles, le reste étant des leurres. C'est exactement le système des leurres, des faux chars et des faux scuds en bois et en toile peinte dont on nous parle aujourd'hui.
Cela dit, les bombes américaines, les B-52, eux n'envoient pas des leurres.
Oui. Contrairement à ce que faisaient les Anglais, qui bombardaient les faux canons du mur de l'Atlantique avec des bombes en bois.
Roger. Il y a un truc quand même qui est important, et moi je trouve toute cette discussion très intéressante, parce que nous avons pensé à ce que nous disons. Hein, nous sommes bien pris dans cette guerre, dans ce combat, en sachant ce qui va nous arriver. Mais je reviens quelques instants, et je regrette pour les amis qui nous écoutent, nous sommes à la radio et non pas à la télévision, malheureusement, mais je voulais parler de la propagande, et j'ai amené là un certain nombre de documents que je te demande, mon vieux frère, de regarder avec beaucoup d'intérêt, c'est très important. Pour montrer le matraquage de la presse, le matraquage de la télé, le mensonge. Parce que moi, je n'avais aucune sympathie, je n'ai aucune sympathie personnellement pour M. Saddam Hussein. Mais le fait que ce gars soit attaqué de telle façon par un tas de petits merdeux à longueur de journée qui ne savent même pas, qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais vu la guerre ni de près ni de loin, qui reprennent tous les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes situations, les mêmes choses bien souvent fausses. Alors moi, je prépare pour le mois de mars un supplément, un gros supplément à National Hebdo, un truc que je fais tout seul, texte et photo. Et je me suis dit, mais nom de Dieu, c'est le moment ou jamais.
Non, tu sais pas, t'as pas dit ça.
Dans ce numéro spécial de 80 pages, de sortir un certain nombre de documents pour montrer combien ces gens sont des menteurs vis-à-vis du monde entier et vis-à-vis de l'opinion qu'ils manipulent comme ils veulent. Et j'ai recherché un certain nombre de photos. J'ai cherché un certain nombre de photos d'Hanoï. Hanoï que j'ai connu comme tous les soldats français, tous les paras, c'était notre capitale de guerre. Et je regrette qu'on soit à la radio, mais les amis verront ces photos dans le supplément que je prépare. Voici Hanoï.
Alors ça, c'est une vue d'Hanoï, c'est une vue d'un carrefour.
C'est la rue Paulbert, avec au fond le théâtre, le théâtre d'Hanoï. On voit dans le pouce-pouce devant un soldat français. Ouais. C'est à la fin de la guerre,
c'est une photo
d'Indochine.
Des années 50, moitié des années 50.
Voici le marché d'Hanoï.
Alors c'est la même époque, probablement.
Même époque, exactement, et voici une rue, un magasin pas loin de la rue Paulbert, avec tout ce qui pouvait faire la fortune de ces pays donc, du temps de la France.
Donc Roger, tu nous présentes là trois photos qui représentent trois vues d'Hanoï avant les énormes bombardements américains,
avant la guerre américaine,
qui ont tout rasé, comme chacun
voilà.
sait.
Voilà, alors, tout a été rasé, tout a été anéanti. Le Nord-Vietnam a reçu plus de bombes que toute l'Allemagne pendant la guerre, voilà Hanoï aujourd'hui. Voilà, ouais. Ça c'est un document.
Alors, on
voit
la
rue Paul Bert aujourd'hui.
La rue Paul Bert est le carrefour du Majestic, c'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi peuvent voir que c'est très exactement les mêmes immeubles qui sont absolument intacts. Il n'y a pas la moindre différence.
Ils n'ont pas. Ils
ça, c'est très très clair.
Et voilà.
On voit
le marché d'Hanoï.
Le marché d'Hanoï qui est absolument intact aussi.
Et voilà le magasin. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus rien à bouffer dans le magasin.
Oui, c'est le même magasin. Et on voit, la seule différence, c'est que toutes les marchandises ont disparu, mais probablement pas à la suite d'un bombardement.
Voilà.
Alors,
on peut bien raconter
c'est
n'importe
quoi. C'est un bel exemple de désinformation.
Alors, je regrette, mais moi, j'ai été témoin dans ma vie de ça. J'ai été témoin dans ma vie de l'affaire Bokassa, qui a été exactement un montage identique, un montage mensonger, comme tout le reste. C'était Timisoara, c'était tout ça. Ces gens sont des menteurs. Ces gens sont des nuisibles.
Alors, je voudrais vous demander de continuer à répondre, parce que finalement, on n'a répondu qu'à une question, et encore partiellement. Je voudrais vous demander de répondre, il nous reste un quart d'heure, le plus rapidement possible, aux questions qui sont posées là, suivant vos compétences. Alors, l'Irak est-il vraiment surarmé si on compare son armement à celui d'Israël, de la Syrie ou de la Turquie? Christian, vous avez des informations?
Non, oui, on a des informations. Incontestablement, ce n'est pas le même armement pour les uns et pour les autres. Tsahal, l'armée d'Israël, est une armée tout à fait particulière, et qui a une qualité exceptionnelle que aucune armée au monde, y compris l'armée américaine, ne possède. C'est-à-dire qu'ils ont des réservistes qui sont en permanence appelés, qui sont de haute qualité technologique.
Hein.
Ce sont des gens ça n'a rien à voir avec le bidas habituel que nous avons et les gens qui font leur service militaire. Qui apprennent des choses, qu'ils apprennent bien, et qui sont capables d'être parfaits au combat. Là, l'ensemble de l'armée israélienne est une armée qu'on pourrait appeler de cerveau.
Alors, moi, ce qui me frappe, et on va en terminer sur cette question avec ça, c'est que, au fond, on nous explique qu'il est absolument capital d'empêcher l'Irak d'avoir un armement nucléaire et un armement conventionnel même un armement conventionnel ou un armement biologique et chimique. Alors si on dit mais pourquoi, parce que dans cette région c'est impossible, et si on dit mais parce que Israël a le même armement et vous n'en faites pas tant d'histoire, on nous répond mais c'est pas la même chose. Je veux dire par là que les mêmes gens qui nous disent en France, si vous faites la moindre différence entre un arabe et un français de souche, vous êtes une crapule raciste. Nous expliquent, les mêmes gens, nous expliquent froidement que les ratons n'ont pas le droit d'avoir la bombe atomique alors que les juifs ont le droit. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire pour des critères qui sont exclusivement des critères de caractère raciste. Monsieur Saddam Hussein n'a pas le droit d'avoir la bombe atomique parce que c'est un raton. Monsieur Shamir a le droit d'avoir la bombe atomique parce que c'est pas un raton. Point à la ligne. Si ça vous plaît pas, c'est le même prix. C'est tout à fait extraordinaire.
Alors, il y a aussi surtout énormément d'intérêts quand même qui sont en jeu et qui.
Oui, mais le seul argument, c'est celui-là. Alors,
tu viens de dire intérêt. Je 30 secondes. J'ai lu le livre de Salinger, parce que je lis beaucoup de choses en ce moment.
Formidable, passionnant, il faut le lire.
Il
faut conseiller d'ailleurs.
Il faut le lire,
la guerre
du Golfe.
C'est Bruno contre l'Amérique.
Tu apprends dans ce livre que 4 heures après l'entrée des chars au Koweït, le Koweït n'est pas encore entièrement occupé, M. Bush est réveillé par les spécialistes qui viennent de bloquer tous les avoirs koweïtiens dans le monde, et tu apprends là qu'il y a 180 à 200 milliards de dollars d'investissement koweïtien à Londres.
Ouais.
À Londres.
Alors, en France, il y a plusieurs milliards.
Alors, question technique.
À
propos de la bombe atomique, juste une question sur l'Irak, c'est que Saddam Hussein est en train de devenir une bombe psychique. Il reprend ce que voulait devenir Alphonse de Chateaubriand. Toujours dans Libération, ils disent à propos de Saddam Hussein
C'est une émanation, une vapeur invisible, un gaz. Expansible, élastique, il a toutes les propriétés de ce qui reste son arme la plus terrifiante. Ça reprend Sax Rohmer et Fu Manchu. C'est exactement comme que Sax Rohmer désigne Fu Manchu. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui s'amène par les parfums, par le gaz.
C'est tout à fait intéressant parce que ça montre bien que, en fait, les mécanismes de la propagande sont toujours les mêmes. D'ailleurs, Fu Manchu, c'était le péril jaune, et là, on retrouve les mêmes arguments.
Ouais.
Question technique. D'après les accords SALT II, il était interdit de fabriquer des missiles antimissiles. Or, on découvre avec l'existence de centaines de patriotes que cette règle des accords SALT II a été détournée.
Quand on a interdit la fabrication des missiles antimissiles, c'est qu'ils existaient déjà. À chaque fois que l'on fait que certaines nations imposent des interdictions aux autres nations, c'est qu'elles possèdent un monopole de réussite technologique qu'elles ne veulent pas voir entre les mains de d'autres. Ça se comprend. D'ailleurs, l'Amérique a utilisé un mot qui est ravissant, ce sont les gendarmes du monde, ça veut bien dire.
Les gendarmes ont le droit d'avoir des pistolets.
C'est-à-dire que les gendarmes ont le droit d'avoir des armes et les autres n'ont pas.
On voit aujourd'hui tout le socialisme, toute la droite libérale française on va investir cette idée comme quoi les États-Unis sont en train d'imposer le nouvel ordre international mondial, que les États-Unis ont maintenant le rôle de gendarme du monde. Moi, j'aimerais qu'on est à cette fin du XXe siècle, j'aimerais qu'on regarde. Ça fait presque un siècle que les Américains ont eu soit l'exclusivité, soit une partie de ce rôle, de cette fonction de gendarme du monde. Et bien, j'aimerais qu'on regarde le rôle de gendarme du monde qu'ils ont eu en 19 avec le traité de Versailles, où ils ont organisé l'Europe, où ils l'ont quadrillé avec leur espèce de rationalisme utilitaire, avec leurs principes, style 3 des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ça a fait complètement exploser l'Europe. À peine 20 ans plus tard. J'aimerais qu'on regarde aussi leur façon de faire les accords de Yalta en 45. Je dis que les Américains n'ont plus même le droit légitime, la légitimité pour prétendre à un rôle aujourd'hui de gendarme du monde. À chaque fois qu'ils ont voulu se préoccuper d'intérêts extra-américains, d'intérêts européens ou même d'intérêts a fortiori encore plus éloignés de leur conception du monde, les intérêts arabes, je crois qu'ils ont créé de véritables poudrières. Alors aujourd'hui, je dis, ne tombons pas dans ce piège, n'espérons pas, ne nous mettons pas derrière les Américains à attendre d'eux une fonction de police internationale. De grâce, moi, c'est une police que je ne préfère pas avoir pour maintenir la paix dans le monde.
Je voudrais donner la parole aux auditeurs plus possible. Donc, une auditrice nous signale que Jean-Marc Sylvestre sur France Inter a déclaré dans sa chronique boursière que le gouvernement et la direction de la Banque des États-Unis avaient déclaré que la récession aux États-Unis était en train de se calmer en raison des activités dans le Golfe Persique. Ça, on comprend effectivement. C'est vrai que la guerre
c'est artificiel quand même.
C'est artificiel, mais ça marche.
Enfin, il faut rappeler qu'il y avait 9 millions de chômeurs aux États-Unis en 1939 et qu'il y en avait zéro en 1945.
Voilà. Il y a un fort déficit extérieur.
C'est un peu artificiel aussi. C'est quand même le prix
le des armements
tel qu'il a avancé. Enfin, ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble pas à grand-chose. À une fusée à 9 millions lourds ou autre, c'est quand même assez ahurissant.
Quand on connaît le prix des cartouches.
C'est quand même, est quand même assez ahurissant. Et quand ils se mettent à compter les frais de la guerre heure par heure, mais si elle leur coûte si cher, ils n'ont qu'à pas la faire.
C'est la fascination des chiffres.
Un auditeur nous dit, si on détruit les armes nucléaires, le danger de contamination radioactive est très grand, comme à Tchernobyl. Alors, effectivement, ça paraît...
Mais surtout, il y aura beaucoup plus de chances de guerre, s'il n'y a plus d'armes nucléaires.
C'est une opération tout à fait différente. On peut détruire des armes atomiques sans qu'elles deviennent Tchernobyl, quoi. Parce que Tchernobyl, c'est un accident...
Sinon, avec toutes les bombes qu'on a fait exploser depuis 45 dans le monde...
Une auditrice attire notre attention sur un propos qui a été tenu par M. Obadiah Sofer, ambassadeur d'Israël, cet après-midi sur Fréquence Juive, qui a dit « Soutenons notre peuple, notre religion et notre race ». C'est effectivement la moindre des choses. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qui se passerait si, par exemple, Jean-Marie Le Pen, au lieu d'aller parler tout à l'heure au Palais des Congrès de la Porte Maillot, venait à Radio Courtoisie pour dire « Soutenons notre peuple, notre religion et notre race ». Je pense qu'en vertu de la loi Guesso, il pourrait être poursuivi.
Il n'est pas issu d'un peuple qui a beaucoup de
l'immunité parlementaire, l'immunité diplomatique.
Roger, on te demande, sois gentil de répondre rapidement, ce que tu penses des appels à la désertion qui ont été lancés à la télévision, notamment par ce jeune bidas au front bas.
Je dois dire que si je devais claquer le museau à quelqu'un, c'est pas ce jeune soldat, mais c'est un monsieur de Chavannes.
parce que M. de Chavannes a fait dire à ce soldat, comme le dit ce jeune soldat qui appelle ses camarades à la désertion.
Alors qu'il n'avait pas fait.
Alors, il n'a jamais parlé de désertion. M. de Chavannes est courageux avec la peau des autres. Alors, une fois de plus, mais enfin, les gens qui appellent à la désertion, je disais ce que je disais tout à l'heure, le chef de l'État est chef des armées, et l'armée doit obéir au chef de l'État.
Oui, exactement.
Une auditrice me reproche d'avoir employé le mot torche-cul tout à l'heure. Alors, je voudrais m'en excuser si ça lui déplaît, mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'elle lise Rabelais, par exemple, où on le trouve à peu près 63 fois. Monsieur Olindre, question à vous. Peut-on établir, est-ce qu'il vous paraît sérieux d'établir le parallèle entre Saddam Hussein et Adolf Hitler?
Mais moi, je n'ai jamais dit que M. Saddam Hussein était...
Non, il ne vous est pas imputé de l'avoir fait.
Était Adolf Hitler. Je dis tout simplement que si M. Saddam Hussein est devenu Adolf Hitler, c'est pas avant-hier. Il devait l'être il y a 6 mois, quand on était très gentil avec lui. Il devait l'être il y a quelques années quand les gens du RPR lui vendaient de l'armement, et il l'était encore il n'y a pas si longtemps quand M. Mitterrand permettait que la France lui vende 82 obusiers AMX, à grande cadence de tir, c'est-à-dire ce sont des obusiers de 155 mm qui tirent 6 obus toutes les 45 secondes. C'est pour ça que quand le général commandant les troupes disait, nous avons la meilleure artillerie du champ de bataille, oui, nous avons la meilleure artillerie du champ de bataille avec nos ennemis en face, puisque c'est exactement les mêmes pièces qu'ils ont. Alors moi, je ne pense pas que M. Saddam Hussein soit comparable à Hitler, mais quel Hitler? Le vrai ou celui que l'on dépeint?
C'est ça, au processus de diabolisation, hein.
Les socialistes ne sacrifient-ils pas l'armée française pour mieux laisser entrer les soviétiques?
En tout cas,
ce qui est certain, c'est que les socialistes se sont arrangés pour que la crème de l'élite de l'armée française se retrouve à 7000 km de nos frontières. Ça, c'est parfaitement clair.
Est-ce que le reste est utilisable dans le désert, dans les conditions?
N'oublions pas que les socialistes sont quand même des masochistes et que leur guerre en 39 a amené ce que l'on sait. Et leur guerre en 56 a amené qu'ils...
Je crois d'ailleurs qu'il y a quand même plus de 8000 hommes ou 10000 hommes de l'armée française qui sont valables. Le drame, c'est que les 2 ou 3 régiments para engagés qu'on pourrait envoyer, si on les envoie, on ne peut pas respecter nos accords de coopération et de défense avec un paquet de pays de la planète, surtout des pays africains.
Une auditrice se déclare horrifiée. Vous êtes en train de donner des arguments aux musulmans qui sont chez nous. Alors, je dirais que c'est d'abord, c'est pas nous qui les avons fait entrer. En plus, je sais pas quels arguments.
En plus, on ne donne aucun argument aux musulmans. En ce qui nous concerne, nous avons toujours dit, je parle au nom du Front National, là, que nous n'étions pas contre les immigrés, nous étions contre la politique de l'immigration. Et ça n'est absolument pas la même chose, et que nous ne voulons absolument pas que cette guerre donne un sentiment tel aux masses arabes qu'elles deviennent toutes anti-occidentales.
Non, mais si... le fait de le dire, c'est bientôt, on va nous reprocher, parce que on dit que c'est en train de se réaliser, on va nous reprocher de l'avoir fait.
C'est toujours
la même chose. On dénonce des périls, quand on vient ensuite gérer une faillite, on nous remet la responsabilité de la faillite sur le dos.
On dira à Saddam qu'il vaut mieux donner des arguments aux musulmans que vendre des armes à Saddam.
Un auditeur nous dit, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, il faudra que je vérifie, que M. Nucci, la famille de Patrice Pellat et M. Alain Boublil, plus probablement les deux fils du président de la République, sont en train de s'engager dans l'armée française pour aller se battre dans le Golfe. Ça demande un chauffeur de taxi. Il n'y a pas de député pour l'instant qui souhaite engager dans l'armée pour aller dans le Golfe.
Oui, non, mais ça c'est...
Non, mais je me permettrais de dire quelque chose là-dessus. On peut peut-être ajouter à côté de cette pointe d'humour que l'on a donnée. Il y a tout un groupe de parlementaires qui d'un seul coup a été très ému par l'arrivée de l'armement soviétique sur Israël. Et M. Léotard, avec des homologues à lui, va partir pour Israël afin de leur apporter le soutien des parlementaires français. C'est une chose quand même très, très, très amusante.
Ça va leur faire une belle gibole.
Voilà.
On peut rappeler d'ailleurs que Israël fait payer très cher chaque missile Scud qui tombe parce qu'ils ont demandé 13 milliards de dollars aux Américains sur 5 ans pour pouvoir accueillir les millions de Juifs qui doivent arriver de l'Union soviétique. Ouais, donc à chaque fois qu'un Scud tombe, il y a 1 milliard de dollars qui tombe dans la poche d'Israël.
Et Clémenceau
c'est exactement
disait...
ce que demandait Saddam Hussein comme participation des Émirats à la guerre qu'il avait
tout à fait
pour eux tous contre l'Iran.
Et ce que la France a demandé aux États-Unis en 1919 et l'Angleterre et qu'on n'a jamais voulu lui donner.
Clémenceau disait, nous dit une auditrice, les Américains adorent... Alors je m'excuse, mais je vais être obligé d'employer un mot grossier. Les Américains adorent foutre le bordel pour pouvoir ensuite venir mettre de l'ordre. Mais comme c'est Clémenceau, ça passe.
Ils mettent du désordre, surtout.
Un jeune homme de 23 ans se considère comme insulté par les propos tenus. Il fera partie des déserteurs car il refuse la guerre. Mais alors, je crois qu'il s'est trompé d'émission. Il faut écouter Radio Libertaire. Il y aurait des appelés dans le Golfe, notamment à des appelés de Castres, nous dit un auditeur.
Non, non. Ils sont volontaires. Il y a des appelés, mais ils ne sont partis qu'étant volontaires. Alors, et sur les bateaux, c'est la même chose. On a demandé aux marins de signer un engagement limité, ou alors s'ils refusaient, ils étaient rapatriés en France.
Alors, à propos de Léotard, un auditeur nous dit qu'il est moins mauvais d'avoir Chevènement comme ministre de la Défense que François Léotard, qui est un va-t-en-guerre, non plus un péteux. Ça, il le dit pas, c'est moi qui l'ajoute.
Mais enfin, il faut quand même aussi dire à nos auditeurs, puisque c'est une radio où ce sont les amis qui écoutent. Bon, monsieur Chevènement a pu dire tel jour des choses qui ne nous sont pas défavorables, mais c'est vrai. Bon, enfin, nous ne pouvons juger que monsieur Chevènement socialiste. Ouais. Et qui prouve que monsieur Chevènement est socialiste sont ses écrits. Si de temps en temps monsieur Chevènement n'est plus socialiste, qu'on nous le dise.
Si Chevènement constate qu'il pleut quand il pleut, bon, en même temps que Le Pen, ça veut pas.
Oui, mais il le constate de plus en plus. Il faut bien avouer qu'aujourd'hui, il y a une recomposition totale du paysage politique. À mon avis, il faut s'en féliciter. Les partis implosent, sauf notre camp, ou à peu près, qui tient bien le choc. SOS Racisme éclate complètement, le Parti communiste éclate, se trotskise, le Parti socialiste éclate, je crois qu'il faut s'en féliciter.
Oui. Alors on va terminer avec une phrase que nous envoie un auditeur. Je me demande si elle n'est pas tirée du livre de Franz-Olivier Gisbert, que Franz-Olivier Gisbert a consacré à Mitterrand. En tout cas, il nous dit, cet auditeur, François Mitterrand avait dit à François-Olivier Gisbert, (ouvrez les guillemets), ce qui me manque pour avoir la stature des grands hommes comme Clémenceau ou De Gaulle, c'est une guerre. Oui, il l'a, cette guerre, et je pense que lui, il a tous les motifs de s'en réjouir.
Mais il l'aura moins comme De Gaulle que comme Napoléon III.
Il y a une espèce, oui, ça c'est probable, il y a une espèce de tragique délectation morbide chez certains vieillards, à voir mourir les jeunes,
la génération
tandis qu'eux ont le cul vissé dans leur fauteuil de brocart. Je pense que c'est le cas de Mitterrand, qui est un personnage... Moi, je pense que c'est un personnage profondément, je l'ai dit souvent, profondément démoniaque. C'est un personnage qui a une espèce d'harmonie secrète avec les forces du
très
mal.
Fort.
C'est un personnage noir, sombre, qui est une espèce de célébrateur de messe noire. Mais ça ne peut intéresser que ceux qui croient à cette partie de la réalité. Ceux qui n'y croient pas vont rire jusqu'au jour où l'heure sera venue d'en pleurer.
À ce sujet, Serge, moi j'aimerais dire justement, parce que maintenant je pense que Mitterrand est de plus en plus responsable de la situation politique, qu'il essaye en effet, en tout cas il est satisfait de cette guerre, pour sauver aujourd'hui un régime qui croule, pour éviter le syndrome des 10 ans, qui allait quand même commencer à monter, notamment en vue du printemps. Alors moi j'aimerais faire un appel, notamment aux jeunes nationalistes français qui veulent plus jouer cadoudal aujourd'hui, simplement que les va-t-en-guerre droits de l'homiste. Moi j'appelle les jeunes nationalistes français, même les jeunes français dans l'ensemble, à venir à notre meeting le samedi 26 janvier à 20h30, musée social 5 rue Lascazes, pour en effet commencer à préparer une campagne active contre Mitterrand sur le thème « Mitterrand, tu ne passeras pas le printemps ». Nous avons en effet l'intention d'essayer d'activer de plus en plus des campagnes afin de renverser Mitterrand, de commencer des campagnes dans la rue, d'agitation s'il le faut, contre Mitterrand. Et on ne nous fera pas jouer l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'Union sacrée.
Merci Nicolas. Merci Angéline. Merci Christian de Lamazière. Merci Bonal.
Merci Serge.
Merci Françoise. La deuxième partie de l'émission est une interview enregistrée de Loge Boissonnade à propos de son livre « Conrad Killian ». Ça a été enregistré il y a une heure exactement, donc c'est parfaitement d'actualité. Je vous dis à la semaine prochaine, que Dieu vous garde.
l'ennemite et ralliant les adamants dans leur campagne zétique qui traquait votre si transant. Dans leur campagne zétique qui traquait votre si transant. C'est pour la Saint.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national sur 95,6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 23 janvier 1991 de 18h à 21h et en différé le jeudi 24 janvier dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 et 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour l'année 1991, la cotisation minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Notez Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Pour la vieille tradition.